Bonsoir et bienvenue dans BFM Grand Soir. On en sait plus sur la feuille de route de Sébastien Lecornu, il suffit de lire Le Parisien. Et ça ne va pas plaire à la gauche. Non à l'ISF, non à la taxe Zuckman, non à la suspension de la réforme des retraites. Ça fait beaucoup ? Eh bien, on va en parler tout de suite avec Victor Hérault. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Émilie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles. Serge Raffi, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste au Point et écrivain. Vous venez juste de publier votre nouvel ouvrage qui s'appelle L'odeur de la sardine. Vous évoquez la guerre d'Algérie. C'est un roman, voilà. Il vient juste d'être publié.
Absolument.
Vous avez aussi écrit Nicolas et les vampires, un livre sur Nicolas Sarkozy. Il en sera question.
C'était prémonitoire parce que c'était en 2016.
Ah, et bien,
donc les vampires commençaient déjà à lui sucer le sang de manière assez intense.
On va pouvoir l'évoquer tout à l'heure dans une deuxième partie de l'émission. Et puis on est aussi avec Arthur Delaporte. Bonsoir. Vous êtes député PS du Calvados et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Merci aussi d'être avec nous. Penchons-nous sur cet article du Parisien, avec quelques extraits qu'on a isolés. Regardez notamment ce que dit Sébastien Lecornu ces dernières heures. Le retour de l'impôt sur la fortune qui avait été supprimé en 2017. Est-ce une piste sérieusement envisagée ? Bien, il répond, le gouvernement ne l'envisage pas. Ensuite, est-ce que la taxe Zuckman est la bonne réponse ? La seule réponse ? Personnellement, je ne le crois pas. Et puis, dernière déclaration, j'espère que Arthur Delaporte est toujours avec nous et qu'il ne s'est pas effondré. Si d'autres modèles pour notre système de retraite doivent émerger, c'est un bon débat pour la présidentielle. Victor Hérault, nous aurait-il menti, le Premier ministre ? Il avait promis une rupture avec François Bayrou.
Oui.
Là, c'est un peu raté.
Là, c'est un peu raté. Alors, moi, je ne comprends pas très bien la stratégie de Sébastien Lecornu parce qu'on nous avait vendu le Premier ministre qui, en sous-marin, allait plancher, censé pencher dans la presse, qui allait travailler avec tout le monde et puis qui allait, au dernier moment, dévoiler le résultat de ses concertations. Il a réussi l'exploit, en une interview, de proposer un projet qui ne contente absolument personne. Parce que vous l'avez dit, la gauche, puisqu'on ne parle pas d'augmentation des recettes, il écarte absolument toutes les pistes de taxation des riches. D'un point de vue de droite que je représenterai ce soir, ça m'enchante. Hein. Pour le coup, j'étais pas pour l'augmentation des recettes, mais il ne réduit pas les dépenses non plus. Moi, je lis l'interview, il parle
d'une... Ah non, mais vous n'allez pas divulgâcher toute l'interview.
Non, pardon.
Alors, on va en parler dans un instant.
Je reste là-dessus. Mais il ne contente ni le PS, ni la droite, ni le Rassemblement National. Enfin, là, on se dit, honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt de divulguer. Alors, lui dit, voilà, ce sera la copie initiale, et puis on laissera le Parlement ensuite retoquer la copie, puis on verra la copie finale. Mais là, ça part, franchement, c'est un très mauvais départ.
Pour vous, très mauvaise stratégie. Qu'en pensez-vous, Serge Raffi ? Oula, vous avez l'air dépité.
Non, c'est que je pense que c'est un premier... Il l'a dit lui-même, je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Mmh. Déjà, quand on démarre comme ça, on démarre mal. Pourquoi ? Parce que tout simple, pourquoi ça, il ne peut rien ? Parce que, un, depuis qu'il est Premier ministre, je crois que l'Assemblée nationale n'a pas changé. Le rapport de force est toujours le même. Donc on a toujours...
Vous voulez dire qu'il n'avait pas réalisé en acceptant Matignon ?
Bien sûr que si. Mais
alors,
la vraie question, c'est que moi, je pense qu'il a une camisole politique qui s'appelle... Emmanuel Macron. C'est une camisole politique. Emmanuel Macron ne veut pas faire un choix dans un sens ou dans un autre. Il ne se sort pas de sa doxa, qui sur le fond, il a sans doute raison, mais elle a échoué, sa doxa du ruissellement, de la stratégie saint-simonienne du pouvoir tel qu'il l'envisageait. Cette stratégie-là, cette doxa-là ne fonctionne plus. Et la question, c'est comment on sort de ce piège ? Visiblement, on pensait qu'il allait faire un choix, peut-être plus dur, justement, en se rapprochant de la droite et peut-être en essayant de contenter le Rassemblement National sur un certain nombre de postures. Ou alors, effectivement, pourquoi pas d'aller vers la gauche et dire, bon, écoutez, on va céder pour l'intérêt du pays, il faut qu'on fasse un effort dans un sens ou dans un autre. Et là, visiblement, l'envoyé spécial du président de la République à Matignon, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Pourquoi ? Parce que le président de la République ne bouge pas.
Il est convaincu. On pensait qu'il lui avait un peu laissé les rênes et que justement il n'avait plus le
choix. Il lui laisse les rênes, mais pardonnez-moi, mais c'est absolument faux.
Ce que certains disaient, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que de le laisser faire et de tenter une autre stratégie.
S'il ne change pas son fusil d'épaule d'une manière ou d'une autre, il ne pourra pas avancer d'un iota. Vous savez, il y a deux jours, à la une de l'Opinion, il y a eu un dessin absolument génial. Qui est le suivant, je vous le dis en quelques mots, c'est un avion qui est en train de couler à pic dans l'air, etc. On voit les passagers qui disent mais qu'est-ce qui se passe, que fait le pilote, et quelqu'un dit il consulte et l'avion continue
en train de se cracher.
Mais bien sûr.
Et donc c'est C'est inévitable. C'est là qu'est Sébastien Lecornu. En ce moment, Arthur Delaporte, vous avez sans doute envie de réagir. J'espère que vous aimez les douches froides. Qu'est-ce que vous dites ce soir? On se moque de nous?
Non, mais je suis sidéré par cette absence d'esprit de responsabilité du Premier ministre. On ne peut pas dire que les choses n'étaient pas claires. On l'a dit dès le 25 juillet, il faudra une alternative, le 25 août, pardon, il faudra une alternative à François Bayrou qui soit autre chose que la continuation du macronisme par lui-même. On l'a dit à Sébastien Lecornu lorsqu'on a été le voir la semaine dernière, de la même manière, avec les mêmes mots, nous souhaitons remettre sur le métier la réforme de la retraite, nous voulons la justice fiscale avec des mesures majeures en mettant sur la table taxe Sussman, et derrière, répond-il, non, non et non, je ne vous ai pas entendu, ou alors en tout cas, je ne veux pas vous donner réponse sur quoi que ce soit. C'est pas de bon augure et je trouve ça irresponsable au sens où nous avions dit qu'on censurait toute continuation du macronisme, mais j'ai l'impression que Sébastien Lecornu cherche sincèrement à être censuré.
Est-ce que c'est pas risqué justement? Je vais révéler un petit peu ce que vous m'avez dit juste avant d'entrer sur ce plateau, Victor Hérault. Vous m'avez dit de toute façon, c'est terminé pour Sébastien Lecornu.
D'ailleurs, sur le fait de la continuité du président de la République, je discutais avec un conseiller ministériel tout à l'heure, après avoir lu cette interview, et je lui disais, mais je ne comprends pas, Sébastien Lecornu n'a contenté personne. Il m'a répondu, si, une personne, le président de la République. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, il va falloir contenter un peu plus que ça. Là, ça me paraît, franchement, c'était déjà mal barré. Sébastien Lecornu le savait très bien. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, comme le dit Serge, il fallait trancher à un moment. Il fallait dire, soit je parle au Rassemblement National, soit je parle au PS, et j'essaie de garder les Républicains, donc j'essaie de trouver une taxe.
Pour vous, c'est terminé. Il est fichu, le Premier ministre.
Je ne suis pas Madame
Irma. Ne retournez pas votre veste, c'est ce que vous m'avez dit en entrant sur ce plateau.
En off, donc en off maintenant, je vous le dis, oui, là, je vois mal comment... Et je pense même qu'il avait quelques semaines ou mois devant lui. Là, la durée de vie de son mandat, c'est franchement rétréci.
Et Arthur Delaporte a dit quelque chose de très important. Il a dit que Sébastien Lecornu se préparait à la censure. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans une autre logique que celle d'un accord, d'une alliance ou quoi que ce soit. Ils se préparent à la censure. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la dissolution va peut-être arriver plus vite qu'on ne croit. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que font les uns et les autres depuis quelques semaines, on sent bien qu'ils se préparent à ça. On prenait Gabriel Attal, par exemple, qui fait une campagne carrément présidentielle à l'américaine, à Arras, etc., et qui prépare ses troupes à la dissolution. Ils en sont là aujourd'hui.
Précisons, vis-à-vis de ce qu'a dit Arthur Delaporte quand même, que Sébastien Lecornu n'a pas fermé la porte de la justice fiscale. Il a dit, je chercherai la justice fiscale et quelque chose. Il faut être aveugle, je crois, si je me souviens.
Il parle quand même de justice
de justice fiscale, mais en revanche, il écarte toutes les pistes qui ont été mises sur la table jusqu'ici par
Bien sûr. Néanmoins, écoutez Olivier Faure, ces dernières heures qui s'exprimait. Vous allez plutôt m'écouter moi parce que je vais vous lire ce qu'il a dit aujourd'hui, le premier secrétaire du PS. Si on devait aujourd'hui se poser la question de savoir si l'on censure ou pas, nous censurerions parce qu'aucun effort n'a été réalisé. Arthur Delaporte, n'est-ce pas un tôt pour appeler à la censure?
C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'autre chemin proposé par le Premier ministre, parce qu'il ferme les portes à tout ce que nous demandons, à tout ce que nous proposons. On attendait une ouverture minimale. Il nous avait promis, je vous le rappelle, la rupture avec le macronisme. Il l'a dit quand il est monté sur les marches de Matignon. Donc nous, on a dit, donnons-lui la chance de proposer cette rupture. Et aujourd'hui, que voit-on? Sinon, la continuité en tout point. En tout point, et même presque en pire, parce qu'il fait des clins d'œil très appuyés à LR, mais surtout au Rassemblement National, quand il dit, par exemple...
Ouais, Victor Hérault n'a pas l'air très emballé. Hein.
Moi, je vous dis, je vois des clins d'œil sur la question de l'aide médicale d'État, sur la question aussi de l'absence d'exécution immédiate des peines en première instance. Vous voyez, ça, c'est des clins d'œil qui sont faits à Marine Le Pen, par exemple. Donc, je ne vois aucun signal sincère en direction de la gauche. Or, nous lui avons clairement exposé les choses. Je crois que les organisations syndicales également lui ont dit qu'elles attendaient de lui des gestes sur les retraites, sur l'assurance chômage. Et là, il nous dit, l'assurance chômage, il faudra bien une nouvelle réforme. Les retraites, je n'y toucherai pas, ou de façon pas significative. Et puis, sur la justice fiscale dont vous parlez, il reste tout aussi flou que François Bayrou. Je vous rappelle que François Bayrou lui-même avait dit oui, il faudra bien faire quelque chose sur la justice fiscale.
Alors, justement, Arthur Delaporte, il est flou, il dit non à beaucoup de choses, c'est vrai, mais il ne dit pas encore ce que contiendra son budget. Donc, est-ce que ça suffit de censurer quelqu'un pour ce qu'il ne veut pas? Il n'a pas encore terminé de
Moi, je vous ai pas dit qu'on allait censurer. Je vous ai dit que j'avais l'impression, en lisant cette interview, qu'il recherchait la censure et que finalement, tout ce que nous avions dit pour éventuellement envisager une non-censure n'était pas rempli. Il y a rien qui va, en fait. Il y a aucune porte d'ouverte. Donc, moi, je me dis, il ne veut rien. Il n'a même pas donné le moindre signal de volonté de montrer qu'il avait changé. Et donc, à partir de là, ben, nous, on applique ce qu'on a dit. On n'a qu'une parole. On a dit la continuation du macronisme sera censurée. Et là, je ne vois que la continuation du macronisme. Mais il reste encore une semaine d'ouverture des débats parlementaires pour que Sébastien Lecornu décide de changer de chemin. Mais là, je ne le vois pas.
Oui, Serge Raffi se sent quand même mauvais quand on voit le communiqué du PS. Sans changement majeur d'orientation, bon, visiblement il n'y en a pas là pour l'instant, nous censurerons ce gouvernement.
Oui, mais je pense que c'est acté. Je veux dire, Sébastien Lecornu n'est pas un magicien.
Ah, vous aussi, vous pensez comme Victor Hérault, c'est terminé.
Merlin, mais oui, c'est pas Merlin l'enchanteur. Hein. Il n'a pas pu, d'un coup de baguette magique, transformer l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Elle est bloquée. Nous sommes dans une chambre ingouvernable. Nous sommes dans une forme de 4e République absolument inédite. Dans la 5e, donc c'est une espèce de, je dirais, de virus au cœur de la 5e République. C'est une bizarrerie politique qui, pour les chercheurs et pour les politiques, est très intéressante, mais le problème...
Mais donc il n'a pas de marge de manœuvre, Sébastien Lecornu, c'était déjà perdu d'avance.
Elle n'est pas liée à l'Assemblée nationale, elle est liée au calendrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème c'est, il y a une dissolution, il va falloir faire des élections législatives. Est-ce qu'elles se font, ces élections législatives, avant les municipales? Il va y avoir une espèce de... Il y a déjà eu 2 élections en 2 ans, les européennes, des législatives... On va remettre le couvert, etc., plus les municipales. Donc, chaque parti va avoir des intérêts particuliers par rapport aux législatives et par rapport aux municipales. Le Parti Socialiste, par exemple, aux élections législatives, est-ce qu'ils vont définitivement ne plus être en lien avec LFI ou au contraire, ils vont trouver d'une manière ou d'une autre un arrangement? Donc, tout ça va arriver et je pense qu'il y a une espèce de panique à bord partout. C'est pas spécifique ni au Parti Socialiste ni aux autres. C'est que le problème fondamental, encore une fois, de la situation politique dans notre pays, c'est le président de la République. Le président de la République n'a pas respecté les institutions de la 5e République après la dissolution qu'il a perdue. Il n'a pas respecté, il n'a pas été dans un rôle de président de la République que je dirais gaulien. Il n'a pas fait ce que De Gaulle a fait en 69. De Gaulle en 69,
Mais maintenant que c'est dit, on ne va pas pleurer sur le lait renversé pendant des mois. Maintenant, c'est ce qu'on fait.
Mais le blocage, il vient de ça. Et à un moment donné, si vous voulez débloquer la situation, il faut effectivement soit faire des législatives très vite, soit il faut que le président de la République
assume de partir. Est-ce qu'on peut débloquer la situation en se mobilisant? Je vous parle notamment de l'intersyndicale qui appelle à se mobiliser le 2 octobre. Est-ce que là, Victor Hérault, on part vers une montée de cette colère?
Oui, alors la montée de la colère,
c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais là, pour le coup, jette aussi de l'huile sur le feu, le Premier ministre.
Il y a une colère réelle et légitime, les syndicats vont s'en emparer, comme des partis politiques, ça c'est le jeu de la politique normale, voilà, on déroule chacun notre tapis, mais si vous voulez, ça ne va pas changer l'équation de l'Assemblée nationale, ça ne va pas changer l'équation d'Emmanuel Macron, Serge a parfaitement raison de le rappeler. Sébastien Lecornu, soit il penchait totalement vers le PS en gardant LR, et à ce moment-là, il taxait les riches, pas avec la taxe Zucman, parce qu'elle n'aurait jamais accepté, mais une taxe partielle et temporaire, voilà. Mais une taxe partielle et temporaire qui ciblerait, voilà, très précisément. Ça pourrait mettre tout le monde d'accord, mais Emmanuel Macron n'est pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est contraire à toute sa politique depuis 2017. Soit il penchait complètement vers le Rassemblement National, mais Emmanuel Macron n'est élu depuis 2022 à toutes les élections que contre le Rassemblement National. Donc ça n'aurait aucun sens pour Emmanuel Macron de valider cette conduite-là. Lorsque Arthur Delaporte disait la gauche est très mécontente et Sébastien Lecornu fait un clin d'œil à la droite, c'est un petit spasme. Parce que franchement, la gauche, je comprends qu'elle soit franchement mécontente ce soir. La droite n'est pas contentée du tout. On nous promettait... alors, effectivement, il n'y a pas d'augmentation des recettes, il n'y a pas d'imposition sur les riches. Mais, pardonnez-moi, moi je lisais réduction des dépenses de l'État à hauteur de 6 milliards. Là, je me dis, super, c'est bien, il a compris. Ça y est, il faut baisser les dépenses. Et puis, je lis 2 lignes plus loin, on augmente les retraites de 6 milliards, donc on revient à zéro. Et puis, on augmente les dépenses liées à la santé de 5 milliards. Donc, en réalité, il y a juste une augmentation des dépenses de 5 milliards. La droite ne s'y retrouve pas du tout là-dedans non plus.
Arthur Delaporte, est-ce que vous laissez une dernière chance au Premier ministre? On sait qu'il doit recevoir... Arrêtez de rire sur ce plateau. C'est une vraie question.
C'est la dernière chance.
Vous avez raison, c'est tragique et on rit, c'est pas bien.
Laissez-moi finir, Serge Raffi. Le PS doit être reçu par Matignon, vendredi prochain. Qu'allez-vous demander, Arthur Delaporte?
Nous, déjà, on attend de voir si le Premier ministre évolue sur sa parole. Notre réponse ce soir, elle est à son interview et de dire que je ne vois pas d'autre solution, nous ne voyons pas d'autre solution, si c'est ça le plan du Premier ministre, que la censure. Donc, il a toujours une semaine pour se corriger, mais le temps, c'est vrai, est de plus en plus serré pour lui. Mais je tiens quand même à dire, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure évoquer l'hypothèse de l'avenir. Mais ceux qui sont responsables de la situation aujourd'hui, c'est ceux qui sont au gouvernement. C'est leur responsabilité de chercher la stabilité. On a l'impression que Le Cornu n'en a rien à faire et qu'il est dans la même situation que François Bayrou. Il cherche d'abord à ménager une forme de sortie, mais sauf que ça sera une sortie pathétique. Donc, s'il avait un peu de courage politique, il proposerait autre chose. Nous, on avait proposé quelque chose d'autre. Une alternative politique, ça n'a jamais été tenté par le président de la République. Il a préféré nommer des successeurs. Mais aujourd'hui, il reste encore cette option-là, parce que je ne suis pas sûr. Ouais. On parle qu'une dissolution soit nature à faire que la scène politique soit forcément différente, fondamentalement différente, soit plus populaire à l'issue d'une élection. Donc, objectivement, c'est aussi dans la configuration actuelle qu'on doit avoir la responsabilité de l'élection. Et Sébastien Lecornu n'en cherche aucune.
Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir été avec nous dans BFM Grand Soir. On va évidemment continuer d'en parler, mais cette fois avec un ancien ministre de l'économie. On va évoquer ses différentes déclarations. Pas d'ISF, pas de taxe Zucman, pas de suspension de la réforme des retraites. Pourtant, écoutez ce que promettait le nouveau Premier ministre il y a quelques semaines.
Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi... sur le fond.
Bonsoir Alain Madelin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai qu'on avait très envie de vous entendre sur la nouvelle feuille de route de Sébastien Lecornu. Donc, merci de venir nous éclairer. D'abord, peut-être quelques extraits de cette interview du Premier ministre dans Le Parisien ces dernières heures. Regardez ce qu'il dit. Le retour de l'impôt sur la fortune qui avait été supprimé en 2017, est-ce une piste sérieusement envisagée ? C'est non, le gouvernement ne l'envisage pas. Est-ce que la taxe Zucman est la bonne réponse, la seule réponse ? Personnellement, je ne le pense pas, je ne le crois pas. Et puis enfin, si d'autres modèles pour notre système de retraite doivent émerger, c'est un bon débat pour la présidentielle. Alain Madelin, êtes-vous soulagé en lisant cette interview dans Le Parisien ?
Soulagé, je ne sais pas, mais je trouvais que composer avec les socialistes dans une telle situation, c'est pas un problème. Mais là, ce sont pas des sociaux-démocrates à l'allemande. Hein. Ils sont partis de LFI, mais avec le programme de LFI. C'est un programme qui est assez délirant, et la taxe Zucman en particulier, avec les mythes qu'elle véhicule, avec le combat de classe qu'elle véhicule, etc. Mais revenons au Premier ministre. Moi, je suis heureux que le torchon brûle entre lui et le Parti Socialiste, parce que je ne vois pas qu'est-ce que l'on peut construire avec le Parti Socialiste.
C'était une crainte qui montait chez vous.
Volant du gouvernement avec des visions aussi contradictoires, ça fait peut-être passer un budget, mais quel temps perdu, et surtout quel désordre dans les esprits cela peut mettre. Cela étant, je pense que ça n'a pas complètement rompu avec le Parti Socialiste, mais cette fois-ci, c'est le Premier ministre qui tient le manche. Il n'est plus sous le... Et clairement,
est-ce que c'est
je
le
ne
Premier
suis
ministre
pas,
qui
je
tient
ne suis
le manche
chantage.
Alain Madelin, est-ce que c'est le Premier ministre qui tient le manche, ou est-ce que c'est toujours Emmanuel
mais,
Macron?
Non, mais je ne vais pas rentrer dans les trucs politiciens, c'est pas trop mon truc. Mais quand même...
Non, mais il explique quand même qu'il a
un peu d'expérience.
Les mains liées.
Oui, le Parti Socialiste a un peu rompu les ponts avec LFI. C'est pas simple pour lui, la situation électorale. Et est un peu comme les macronistes pur jus, les uns comme les autres n'ont pas intérêt à une dissolution. Donc, s'ils n'ont pas intérêt à une dissolution, disons que le Parti Socialiste n'a quand même pas intérêt à voter la censure. Là-dessus, on peut parler. Mmh. Alors, vous me disiez le style du Premier ministre. Moi, je reste un peu sur ma faim, parce que je vois ce qu'il ne veut pas. En tout cas, il dit que ce ne sera pas une initiative du gouvernement. C'est bien. Maintenant, j'attends ce qu'il veut.
On voit justement tout ce à quoi il a dit non pour le moment.
Ouais, moi, à sa place, je reprends une vieille suggestion que j'avais faite pour les précédents premiers ministres. On a un trésor caché. Ce ne sont pas les riches, comme le croit le Parti Socialiste. On a un trésor caché qui est fait de participation dans des entreprises. entre nous, on n'a rien à y faire. On n'a rien à y faire chez Orange, on n'a rien à y faire chez LG, etc. Il y a un petit magot là qui n'est pas rien. Et franchement, si on voulait tirer 20 milliards, on peut le faire du jour au lendemain. Ou on vend quelques participations, ou on vend la moitié des participations dans un certain nombre d'entreprises. Après, c'est de la technique. Mais là, il y a 20 millions qui dorment et qui nous aideraient peut-être à faire passer un budget dans de meilleures conditions. Alors.
Pourquoi personne ne franchit le cap?
Je ne sais pas, je renouvelle l'idée, mais puisque j'ai une idée, je me permets d'en donner une ou deux autres, si vous voulez. Je pense, par exemple, qu'il va falloir reprendre le budget à zéro. C'est ce qu'avait voulu faire Bayrou. Ça n'a pas très bien marché, peut-être que son ambition était trop grande, peut-être que l'administration n'était pas prête, peut-être que Bercy n'a pas travaillé dans le bon sens, ou son ministre en tout cas.
Alors justement, regardez juste ce qu'a dit Sébastien Lecornu, il disait « sur le budget, je repars d'une feuille blanche ».
C'est bien.
Ce qui explique ce délai, c'est déjà une bonne chose.
Il a donné une mission d'efficacité de l'État, c'est bien, à deux personnalités, une de gauche, une de droite, deux technocrates de qualité. On va se mettre sans doute d'accord sur un certain nombre de mesures de bon sens. On n'ira pas très loin, on n'ira pas à base zéro. On ne fera pas les réformes de l'avenir, on ne va pas réinventer l'État, on ne va pas refonder notre protection sociale comme il faudrait, mais on va trouver sans doute un peu d'argent à gagner. Ce que je ferai aussi, c'est que je pense que la liberté, c'est ce qu'il faut pour ce pays. Un choc de liberté. Alors, comme on ne peut pas le faire partout, on est en cohabitation, même pas en cohabitation, on est en pluriche et pas trop quoi, donc on ne peut pas bouger, on se neutralise chacun. Mais néanmoins, on pourrait faire ce que j'appelle des projets Notre-Dame. Vous vous souvenez de Notre-Dame ? Formidable réussite, un commandement bien clair, et puis ensuite on fait sauter tout ce qui bloque l'action d'une entreprise. Ben pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça pour les actions du ministère? Il y a des tas de ministères qui ont sûrement des projets Notre-Dame, construire des prisons, rénover l'école, ça peut faire des projets Notre-Dame ça. Pour les collectivités locales. Et les collectivités là, il y a même encore plus que les projets Notre-Dame. Il y a un article 71 et quelques dans la Constitution qui dit en cas de besoin, on est capable de faire sauter les lois, les règlements. On peut faire des choses, ça. Puis on peut offrir ça non seulement aux collectivités locales, mais on peut les offrir aux entreprises, etc. Donc je crois qu'il y a besoin de donner des preuves, et ça, tout gouvernement peut le faire, même monsieur...
Mais nos ministres manquent de panache?
Non, je dis c'est une bonne idée pour un Premier ministre audacieux. Puis il y en a bien d'autres, je m'arrête là, mais je crois qu'il doit faire preuve d'audace et de vision. Pourquoi? Parce que faire des économies... C'est pas un projet. C'est pas un projet. On a déjà fait ça l'an dernier. C'est plutôt.
C'est pas un projet, mais est-ce que c'est pas une nécessité?
C'est désespérant.
Donc, oui, c'est sûr que ça n'a rien de sexy. Mais non, il n'empêche, est-ce que ce n'est pas nécessaire?
Qui montre qu'en se remontant les manches, on peut faire aussi de grosses choses et pas seulement en serrant la ceinture. Je pense que ce serait une bonne idée.
Pensez donc qu'il faut tout simplement se bouger.
Il faut montrer que on se bouge aussi, pas seulement pour donner des coups de rabot ou pas seulement pour ajouter des taxations supplémentaires. Je vous ai proposé quelques idées, j'en ai d'autres, mais quelques idées pour aller dans cette direction.
Alors, moi j'en ai une autre d'idée, la stabilité politique. Est-ce que vous avez le sentiment que Sébastien Lecornu, malgré tout, joue avec le feu en se mettant la gauche et les syndicats à dos? C'est vous qui nous le rappeliez constamment sur ce plateau, que le pire ennemi des marchés, eh bien, c'est l'instabilité politique. Là, il va un peu dans le mur.
Je dirais, pour être complet, que le pire ennemi des marchés, c'est ne pas savoir où l'on va. Alors, il y a l'instabilité politique, mais si en plus, il y a, semble-t-il, le désordre politique dans toutes les têtes, de gauche comme de droite, ils savent plus où ils sont, ils savent plus où ils habitent, qui donne parfois un peu l'impression. Ça, c'est aussi très, très inquiétant. Donc, je crois que l'instabilité politique, elle est actée par les marchés. On a bien compris qu'on pourrait pas faire grand-chose d'ici la prochaine présidentielle. Je pense que fixer un cap, et ça peut être le rôle du Premier ministre, même si, bien évidemment, il ne peut pas aller très loin sur cette route, mais fixer un cap, montrer qu'on a compris la leçon, au fond, de nos déficits. La leçon de nos déficits, c'est de se dire, maintenant, il y a une maladie, ça s'appelle l'étatisme. On a fait trop d'États, toujours plus de lois, toujours plus de réglementations. Il faut revenir un peu en arrière et il faut réinventer l'État, il faut repenser nos protections sociales. Enfin, bref, je crois qu'il faut donner, effectivement, commencer à construire un projet pour donner de l'espoir dans les marchés. À l'heure actuelle, je crois que tout le monde a compris que nous avions une classe politique qui était malade. L'ensemble de la classe politique, et parfois les gens s'interrogent et disent, mais est-ce qu'on peut faire du neuf avec des vieux, pour faire simple, avec en reprenant les vieilles habitudes politiques, les mêmes défauts? Et c'est ce qui est la crainte qui est aujourd'hui la plus forte. L'avantage de la taxe Zucman, c'est qu'elle montrait que il y avait une cagnotte cachée, qu'on pouvait continuer un peu le toujours plus, et que, bref, il y aurait toujours l'argent des riches pour combler nos problèmes. Bien évidemment, c'est une histoire, c'est un grand mythe.
Ça ne pouvait pas tout combler.
L'argent des riches, non seulement l'argent des riches ne veut pas le combler, la taxe sociale est absurde, c'est un autre sujet, mais au surplus, ces grandes entreprises, on en a besoin. Dans les autres pays, on est fiers. Monsieur Zucman dit, mais les entreprises qui ont réalisé plus de 10% par an de ces dernières années. Non! Les grandes entreprises n'ont pas réalisé 10%. Elles ont réalisé bien plus que 10%. Bien plus. Bernard Arnault, sur les 10 dernières, ça a été multiplié par 17. Mais il y en a d'autres qui ont multiplié par 20. Il y en a d'autres qui ont multiplié. Nvidia, tenez. Nvidia, la pépite des pépites. Elle a multiplié par 2300 sur les 30 dernières années son cours de bourse, sa valeur. Et on va vers un monde où vraiment, le capital est destiné à se capitaliser. C'est un gros problème. Zucman pose, et Piketty ont posé un problème. C'est que, on va voir le capital qui augmente, on voit le capital qui augmente, mais maintenant il va hyper augmenter. Pourquoi? Parce qu'il va hyper augmenter, parce que toutes les données de la croissance vont suivre aussi une exponentielle, à commencer par l'intelligence artificielle. Donc, traîné par tout ça, on a une économie qui va aller hyper vite. Donc, le capitalisme va aller encore plus vite. Et donc, la question qui se pose, c'est pas de savoir s'il va y avoir des grandes entreprises capitalistes, que vous le vouliez ou non, il va y en avoir. Le problème, c'est de savoir s'il va y en avoir chez nous. Quand on fait le tapis rouge, par exemple en Italie ou aux États-Unis,
vous trouvez qu'on leur déroule pas assez le tapis rouge aujourd'hui?
Ah ben ça, c'est encore le chiffon rouge, c'est pas le tapis rouge, c'est le chiffon rouge. Donc de toute façon, ces entreprises, elles vont exister. Il faut qu'on soit fiers des nôtres qui le sont déjà ou qui peuvent le devenir comme Mistral. On va pas les forcer à vendre une partie de leurs espoirs, c'est évident. Et il faut surtout que l'on se dise que demain, face à ces problèmes des grandes entreprises capitalistes, la question c'est pas de les taxer pour donner de l'argent à des fonctionnaires qui vont les dépenser ailleurs. La question c'est de partager le capital. Des entreprises en bourse comme ça, la moitié du capital, par exemple de LVMH, il est à la bourse. Tant mieux, ça prouve que des tas de porteurs, des assureurs, etc. peuvent en
mais là,
faire fructifier d'autres.
Mais là, vous beaucoup du long terme. Nous, on parle aussi
non,
de
je vous parle du
sur
court
le
terme.
Court terme.
Là, je vous parle du capital tel qu'il est. À l'heure actuelle, le capital de LVMH, il profite aux fonds de pension américains. Les fonds de pension américains disent « Bravo, monsieur Arnault, vous avez fait des performances extraordinaires, donc on met de l'argent chez vous. » Eh, où sont les capitalistes français? Où sont les fonds de pension à la française pour que nous aussi, on profite du dynamisme de Bernard Arnault plutôt que de penser à le taxer?
Je voudrais vous montrer une autre déclaration de Sébastien Lecornu. Vous allez me dire, c'est une bonne idée, puisqu'il parle de justice fiscale, justement. Peut-être qu'il n'a pas envie complètement de se mettre la gauche à dos. Regardez, c'est dans Le Parisien. Il dit bien que ça ne signifie pas que les plus riches ne seront pas mis à contribution. Il faut être sourd pour ne pas entendre que les Français nous demandent plus de justice fiscale. Pourra-t-il y échapper, Sébastien Lecornu?
Je pense qu'il a tort d'utiliser le terme de justice fiscale.
C'est un gros mot.
Parce que c'est une livraison d'armes à la gauche qui utilise ça comme drapeau. Le drapeau est faux. C'est faux. En aucun cas, quand vous regardez aujourd'hui les inégalités telles qu'elles sont corrigées après redistribution, on est un des pays qui recorrige le mieux. Dans ses comptes d'ailleurs, monsieur Zucman oublie la redistribution. Et si vous comptez la redistribution, ben vous êtes des pays qui redistribuent le mieux. Si vous regardez la fiscalité, 75% des impôts sont payés par 10% des Français. 1% des Français paient encore 10% des Français paient 30% de l'impôt. Et 1% des Français doit payer en tout cas le 0,1%.
Mais est-ce que les plus riches en France aujourd'hui paient suffisamment leur part?
Paient 4 à 5% des impôts. Donc il y a déjà une énorme poids sur les plus riches. Si vous regardez le patrimoine.
Mais proportionnellement, les riches paient moins que la moyenne des Français.
Non. Ça, c'est les comptes de Monsieur Zucman. Les comptes fabuleux de M. Zucman. Je pouvais le démontrer, je le ferai ici. Je crois que le temps a passé pour le faire. Mais je reviens quand vous voulez démontrer ça. D'un côté, impose les Français les plus pauvres. Il leur met des impôts supplémentaires qu'en réalité, il ne plaît pas. Il oublie le côté, les transferts qu'ils ont. Et pour les riches, il ne prend pas l'argent que les riches reçoivent, il prend l'argent qui est composé par le patrimoine grandissant de l'entreprise. Mais le patrimoine grandissant de l'entreprise, il profite certes peut-être un jour à M. Bernard Arnault, mais en attendant, il travaille. Il travaille pour bien évidemment les salariés, il travaille pour les sous-traitants, il travaille à créer de la richesse et il travaille à créer des impôts pour le fisc. Et les impôts de Monsieur Arnault, ils sont pour une part largement payés par son entreprise qui travaille en premier lieu pour le fisc, 5% d'impôts de production, 25% d'impôts sur les sociétés. Donc ça fait de sacrées recettes pour le fisc ça. Donc les comparaisons de Monsieur Zucman sont fausses. Et quand je disais s'il s'agit simplement de l'impôt, à l'heure actuelle, si vous comparez l'impôt sur le patrimoine, tout compris, entre la France et le reste de l'Europe, l'écart, on est supérieur de 2 fois à celui qui nous suit. 2 fois à celui qui nous suit, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui nous surimposons par rapport à d'autres.
Soulagés, donc
qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que nous fassions pays à part dans la course internationale? Nous avons déjà donné, nous les Français, à 2 expériences socialistes. La première s'appelle les 60 ans, on l'a payé lourd. La deuxième s'appelle les 35 heures, on l'a payé lourd. Je n'ai pas envie qu'on paye encore aujourd'hui lourdement l'innovation socialiste de la taxe Zucman.
Alors peut-être une autre réaction sur toujours cette justice fiscale, hein, puisque évidemment il y a des points positifs pour vous, d'autres qui sont plus négatifs. Regardez, faut-il encore augmenter les impôts globalement? Je ne le veux pas, jusque-là tout va bien. Sauf qu'ensuite il ajoute, je ferai une proposition de budget dans laquelle certains impôts augmenteront, mais d'autres diminueront. Vous qui avez une boule de cristal, que veut-il dire Sébastien Lecornu?
Je ne sais pas. Il ne serait pas anormal de dire, je laisse un peu le côté de justice fiscale parce qu'il nécessiterait un tout autre débat. Je pense qu'aujourd'hui, la justice, c'est de donner le maximum de chance à tout le monde, ça s'appelle la croissance, et le maximum de chance à tous ceux qui sont en bas de l'échelle. Et c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, quelles sont les chances que l'on donne à tout le monde, plutôt que de dire quelle est l'égalité mécanique. Bon, je laisse ce débat-là, mais je crois qu'il est extrêmement important. Quant au fait de dire que, puisque nous allons faire un effort, il faut peut-être demander une part plus grosse à ceux qui ont le plus. Bien sûr, bien évidemment. Encore faudrait-il montrer à tout le monde, et à commencer par les riches qui savent ce que c'est que de placer son argent, de montrer que l'argent français, il est bien placé. Et que nous ne sommes pas en train, pour l'instant, de continuer à mettre de l'argent dans un tonneau percé.